Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous écoutez le programme de Studio Tamani, le 8h en temps universel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition dont voici les titres. Les obsèques de notre confrère Mohamedou Touré, décédé le 17 juin à Bangui, ont eu lieu hier à Kambila dans le cercle de Kati. De confrères amis ont rendu hommage aux qualités humaines et professionnelles de l'homme. La chanteuse Rokia Traoré est toujours détenue en Italie depuis le 20 juin dernier. Elle comparaîtra demain 2 juillet devant le tribunal de Rome. Le kirage de caniveaux a commencé au niveau de plusieurs mairies à Bamako et à l'intérieur du pays. Ces dispositions visent à minimiser les risques d'inondation. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. L'ancien rédacteur en chef de Studio Tamani, Mohamedou Touré, décédé le 17 juin dernier à Bangui, en Centrafrique, repose désormais au cimetière de Kambila, cercle de Kati. Ses funérailles ont eu lieu hier, 30 juin. Plusieurs centaines de personnes, dont des confrères, des parents, amis et auditeurs, ont rendu hommage aux qualités humaines et professionnelles de l'homme. Reportage de Issa Oumar Togola.
Ce dimanche matin, sous un ciel pluvieux, plusieurs centaines de personnes sont venues dire adieu à Mohamedou Touré. Elles sont venues de partout avec une grande tristesse. Pour Studio Tamani et la Fondation Hirondelle, c'est une valeur sûre de la profession qui s'en va, comme nous le témoigne Intala Akbilal, les délégués du personnel de Studio Tamani.
Au nom du personnel de Studio Tamani, je témoigne que Mohamedou Touré a été un rédacteur en chef exigeant et visionnaire, un leader passionné et engagé, un collègue et un patron sur qui on peut compter, tant sur le plan professionnel que social.
S'en a suivi une série de témoignages empreints d'éloges. Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse, et Mahmoud Bokoum, président de l'URTEL, ont mis l'accent sur la qualité de l'homme, un journaliste complet, un homme aux valeurs humaines exemplaires.
Nous retiendrons de lui l'un des meilleurs journalistes des temps modernes, qui a su faire une utilisation judicieuse des médias sociaux en les réconciliant avec les médias classiques.
Chers confrères, son départ prématuré laisse un vide immense au sein de la presse malienne.
Arraché à l'affection de tous le 17 juin 2024 à Bangui à la fleur de l'âge, Mohamedou Touré, l'une des figures emblématiques du grand dialogue des Studio Tamani, repose désormais au cimetière de Kambila. Il laisse derrière lui une veuve, un orphelin et de nombreux confrères inconsolables.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La saison de pluie s'installe progressivement à Bamako et à l'intérieur du pays. Certaines mairies ont pris des dispositions pour curer les caniveaux afin d'éviter des cas d'inondation et pour minimiser les dommages causés par les orages. Toutefois, certaines mairies affirment qu'ils font face à des difficultés, notamment l'incivisme des populations. Le point avec Fatoumata Kodjo.
Pour Abdina Karambe, chef division administration générale de la mairie de la commune 4, sa circonscription s'occupe des caniveaux de petite dimension. Il affirme que la mairie s'active pour que l'hivernage se déroule dans de bonnes conditions.
Nous avons 3-10 caniveaux à curer au niveau de la commune 4 que nous pensons, s'ils sont curés, facilitera le coulement d'eau. Il y a des caniveaux qui sont ouverts, il y a des caniveaux qui sont fermés. Et pour ne pas permettre aux ordures de retomber chaque fois.
À la mairie de la commune 6 du district, un plan d'action annuel est élaboré pour prévenir les cas d'inondation. Chaka Mariko, président de la commission développement et assainissement de la structure, souligne que l'incivisme et le manque de ressources financières restent des défis pour la commune.
Ce plan nous permet de faire le curage des caniveaux. Nous curons également les collecteurs. Nous faisons également des sensibilisations par rapport à ceux qui s'installent sur les lits des rivières. Donc c'est pour leur dire de dégager que c'est une période qui pourrait être souvent dangereuse. Donc nous le faisons avec les moyens de bord. On est confronté également à un problème de moyens matériels.
Afin d'éviter tout désagrément, les acteurs communaux demandent aux populations à ne pas obstruer le passage des eaux de ruissellement avec les ordures.
Le 26 juin de chaque année est célébrée la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Pour l'occasion, Arcade Sida et ses partenaires ont organisé la journée Support Don't Punish. L'objectif est de pousser les décideurs à mettre l'accent sur la sensibilisation que sur les sanctions. Notre reporter Hamza Toutouré était sur place.
Moins de sanctions, plus de soutien, c'est l'esprit de la journée support dont Punish. Alpha Makital est le directeur plaidoyer de la communication et mobilisation des ressources à Arcade Sida.
Quand on prend spécifiquement les personnes usagères de drogues injectables, on a constaté que ces personnes-là s'échangent très régulièrement les aiguilles. Un autre aspect, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles utilisent les drogues, elles ne sont plus en pleine possession de leurs facultés mentales. Donc, il y a certaines de ces personnes qui s'adonnent à des pratiques, à des rapports sexuels non protégés.
Présent à la rencontre, le représentant de l'ONU SIDA, Bassirou Diallo, revient sur la nécessité de cette journée importante dans la lutte contre le VIH-SIDA.
La prévalence du VIH chez les utilisateurs de drogues injectables est autour de 5%. La prévalence au niveau de la population générale au Mali est de 0,9%. Comparer 0,9% à 5%, c'est énorme. Mais il y a une passerelle entre cette couche et la population générale. Donc, en les sanctionnant, on ne fera qu'augmenter le taux de transmission.
Les deux structures invitent les autorités à éviter les pratiques répressives, car cela pousse les personnes qui se droguent dans la clandestinité, ce qui complique leur tâche.
Autre information, la chanteuse malienne Rokia Traoré a été arrêtée le 20 juin dernier à l'aéroport d'Italie suite à une condamnation en Belgique pour non-présentation d'enfants. En effet, depuis 2019, Rokia Traoré est en conflit avec son ex-époux pour la garde de sa fille. Notre compatriote doit comparaître ce 2 juillet devant le tribunal de Rome. Selon son avocate, elle pourrait être renvoyée en Belgique, pays émetteur du mandat. Toutefois, Madame Mandela de la Claudia Dere affirme que Rokia, qui bénéficie du soutien des autorités, reste forte et combative. Elle est jointe au téléphone par Arkia Touré.
Elle est très forte, elle est très combative, elle est très digne. Puis, dans tous les cas, le 2 juillet, on aura une audience où je chercherai de démontrer qu'il a eu de vices formels dans le mandat européen et qu'il y a aussi peut-être de violations de droits humains parce que Madame Traoré n'a pas eu la signification de le processus criminel. On entretient avec son Excellence Monsieur l'ambassadeur ici à Rome. Il est allé visiter Madame Traoré.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
On en vient à notre rubrique Vérifiant. Nous allons parler de deepfake, appelé en français trucage hyper réaliste. Ce contenu trompe plus dense, n'est-ce pas, Draman Maïga?
Un deepfake est une technique d'intelligence artificielle. Il permet de créer ou de modifier des contenus vidéo et audio. Cette intelligence artificielle permet de manière réaliste à remplacer le visage d'une personne par celui d'une autre, créer un journal avec un présentateur ou une présentatrice réelle, produire la voix d'une personne, entre autres. Plusieurs sites et applications existent de nos jours pour créer des deepfakes. Selon les experts, les deepfakes sont souvent utilisés à des fins de divertissement, comme créer des vidéos humoristiques ou des parodies. Mais de nos jours, certains utilisateurs ont d'autres objectifs, comme tromper l'opinion publique ou encore nuire à une personnalité en liant son image ou sa voix à un montage audiovisuel. Pour y faire face, des sites et des réseaux d'experts ont été mis en place. Objectif, démasquer les montages et aider les internautes à démêler les deepfakes et des vrais contenus audiovisuels. Parmi ces sites, Deepfake Video Reddit et Deepfake Lab, l'utilisation de ces outils de vérification fera l'objet d'une de nos réalisations sur votre rubrique « Vérifions ».
À présent, le résumé de l'actualité de la semaine, une actualité dominée par la visite du président de la transition au Burkina Faso. Rétro-actu, c'est avec Moussa Agmahaha.
Nous commençons cette rétrospective par les cris de cœur de l'ONG Avocats sans frontières Canada sur la journée mondiale pour l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit. Selon l'organisation, depuis 2012, la crise multisectorielle a favorisé les viols et autres violences sexuelles sur des femmes et filles au nord du pays. L'actualité de la semaine, c'est aussi cette visite d'amitié et de travail du président de la transition, colonel Assimi Goïta, au Burkina Faso. Les deux chefs d'État ont échangé sur la situation sécuritaire et le développement économique des deux pays. Nous terminons ce rétro par le rapatriement de 400 Maliens en provenance des ports de Bouillé. L'annonce a été faite par le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine lors du Conseil des ministres de ce mercredi 26 juin 2024.
C'est tout pour cette édition qui vous a été présentée par Imran Akilomaïga, dont vous avez la possibilité de réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kunafoni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs CFA de crédit dans votre téléphone. Merci de l'avoir suivi. Des grands sentiers poussiérés à perte de vie servant de chemin qui relient des villages, des embarcations et bouts de filets abandonnés et des pinances de transport parqués. Voilà le tableau sombre que laisse le retrait des eaux du fleuve Niger dans plusieurs localités au Mali. Cette année, le fleuve et ses bras ont tari de façon effrayante et les populations riveraines du fleuve au centre et au nord s'inquiètent de ce phénomène qui ne faiblit pas. Ce magazine est une réalisation de Fatih Yatara.
Les populations riveraines ne cachent pas leurs inquiétudes. Des personnes aînées qui ont assisté à l'évolution de ce cours d'eau se disent choquées et dépassées face au phénomène. Celle de Massina dans la région de Ségou, Mopti et Gourmararous, région de Tombouctou, affirme n'avoir jamais assisté à une telle baisse du niveau du fleuve Niger.
À Massina, nous vivons cette situation avec étonnement et stupéfaction. J'ai plus de 60 ans. Jamais je n'ai vu le niveau d'eau descendre comme ça, jusqu'au tarissement de certaines parties du fleuve.
Je suis le fils et le petit-fils des conducteurs de bateaux, donc je connais bien le fleuve au niveau des Koulikoro. L'eau arrivait souvent jusqu'aux escaliers menant au quai. Mais de nos jours, le fleuve a vraiment tari. L'eau est réellement partie.
Ici à Massina, nous ne savons plus quoi faire. La situation nous effraie vraiment.
Il y a 60 ans, je n'ai jamais vu le fleuve aussi taré et où pratiquement on peut quitter Raoult et rentrer dans la bourbitière sans enlever ses chaussures. Ça, c'est la première fois.
À Diré, par exemple, plusieurs activités liées au fleuve sont à l'arrêt. Parmi celles-ci, on peut citer la navigabilité des pirogues qui devient de plus en plus impossible, même entre les villages. Une situation qui fait souffrir l'économie, c'est la lamente les populations. Boubacar Sidi Meiga est un notable de la localité.
À Diré, ici, nous sommes inquiets car l'eau est vraiment partie, alors que nous vivons économiquement de ces fleuves. Auparavant, la crise dure 6 mois. Maintenant, ça ne dure que 3 mois. Moi, j'ai plus de 50 ans. Je n'ai jamais vu une telle décrue.
Ce phénomène s'explique non seulement par les dérèglements climatiques, mais aussi par certaines défaillances au niveau des bassins du Niger et du Bani, selon le directeur adjoint de l'agence du bassin du fleuve Niger, Moussa Djamoui.
En fait, on a remarqué que les têtes de sous-bassin, de façon très précise, 73 têtes de sous-bassin qui constituent des artères nourricières en amont et ravitaillant de façon permanente ou temporaire les sous-bassins du Haut-Niger et du Bani sont dans un état de dégradation continue. C'est un peu comme les vaisseaux sanguins qui font circuler le sang dans l'organisme. Et il y a donc lieu de restaurer ces artères-là.
Au-delà du dérèglement climatique et toute autre cause, certains environnementalistes mettent l'accent sur l'incivisme des populations. Si rien n'est fait, le fleuve Niger risque de laisser complètement place au désert et la disparition des prairies et savanes sera inévitable, prévient Tidjani Sangaré.
Imagine les grandes industries déversent leur eau dans le fleuve Niger. Alors qu'il y a un service qui est dédié à faire le contrôle de ces eaux et à prendre des sanctions qui s'imposent. Il y a aussi des hôtels qui sont au bord du fleuve, diversifiés, toutes les eaux usées dans ce fleuve Niger. Les femmes qui font de la teinture. Et pratiquement, il y a beaucoup de problèmes auxquels le fleuve subit, mais les actions sont inertes.
Ces phénomènes risquent d'exacerber le taux de migration et l'exode rural dans l'avenir, selon des observateurs. C'est la fin de votre rubrique Parlons de l'environnement. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre numéro.